la compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi, deuxième jour de notre série consacrée à l'Écossais Robert Louis Stevenson, auteur parmi d'autres chefs-d'œuvre de Dr. Jekyll and Mr. Hyde et de L'île au trésor. L'île au trésor qui constituera le cœur de notre émission de demain. Avant d'entamer jeudi une dernière randonnée, celle que Stevenson a faite à dos d'ânesse dans les Cévennes, nous parlerons également d'un autre texte de lui, peu connu mais pourtant passionnant, intitulé « Olaya ». Mais aujourd'hui, c'est sur le tourment constamment sous-jacent dans ses romans dont nous allons parler, une part d'ombre omniprésente chez celui que l'on a pourtant longtemps considéré, en partie à tort, comme un écrivain pour enfants, à moins que la littérature, parce qu'elle évoque davantage qu'elle ne dit, ne soit précisément une façon de faire sentir aux enfants la complexité et parfois la noirceur de l'être humain. Une noirceur d'ailleurs qui n'est jamais univoque chez Stevenson, car en face du vilain personnage se trouve presque toujours son double, celui-là tout entier tourné vers la bonté. En ouvrant un livre de Stevenson, dès les premières pages, le lecteur perd sa personnalité, disait Pierre Macorlan, une façon de souligner que dans cette perte, le lecteur s'incarnait aussi en quelqu'un d'autre, et c'est de cette duplicité constante dont nous parlons aujourd'hui. Et nous en parlons avec le romancier, universitaire et traducteur Jean-Pierre Nogrette, dont le premier livre, en 1987, était déjà un essai sur le thème de la duplicité chez Stevenson. Et depuis, il a continué à s'intéresser à l'écrivain écossais en rédigeant par exemple une présentation de son célèbre roman « Le cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde ». C'était dans la collection de poche des éditions Flammarion. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
Stevenson, peut-être beaucoup plus que notre écrivain, mais peut-être c'est vrai pour tout écrivain ou pour tout être humain, est un être double. Stevenson est né dans une famille calviniste, puritaine, très très dure en Écosse. D'ailleurs, quand il était étudiant et qu'il découvre qu'il ne croit plus en Dieu, son père lui écrit une lettre en lui disant « Moi j'aurais préféré que tu sois mort plutôt que de régner le Dieu auquel toute ta famille a cru. » Et il y a donc cet aspect qu'il abandonne et il s'élance à l'aventure. Il est le grand voyageur, il est le grand raconteur, il est celui qui aime le vin, les femmes, l'aventure. Mais aussi, il est malade de tuberculose. Et donc, son corps l'empêche constamment de faire ce qu'il veut. Et pourtant, il essaye. Et il y a ces deux pôles qui sont constamment opposés dans Stevenson, parce que même l'aventurier, quand il écrit avec un point de vue précautionnaire. On sent la voix de ses ancêtres qui sont là à dire « Attention, l'aventure toute seule, elle peut mener en enfer, donc il faut faire gaffe comment on vit cette aventure. »
Bonjour Jean-Pierre Nogrette.
Bonjour.
Vous avez reconnu Alberto Manguel,
oui,
le grand lecteur.
Certainement.
Est-ce que vous diriez comme lui que, certes, Stevenson est un aventurier, mais un aventurier un peu retenu, un peu précautionneux, précautionnaire, dit Alberto Manguel. Un aventurier un petit peu double, en fait.
Oui, je ne sais pas s'il faut le définir comme étant aventurier. C'est sûr qu'il était un grand voyageur. C'est l'expression un petit peu de Michel Lebris à propos de Stevenson. Il a beaucoup voyagé et il a voyagé lui-même dans des circonstances parfois extrêmement périlleuse, par exemple, lorsqu'il est allé rejoindre sa future épouse alors qu'il était malade. Il a traversé l'Atlantique, il est allé jusqu'en Californie après avoir traversé l'espace américain. Et c'est vrai qu'il a été, pour l'époque quand même, un très grand voyageur, hein, jusqu'aux îles Samoa où il est mort. Mais c'est vrai aussi que chez lui, il y a peut-être, alors c'est peut-être un premier dédoublement, aussi toujours, et heureusement d'ailleurs, un travail sur l'écriture qui est un travail sur le style extrêmement, alors précautionneux, en tout cas, cette dimension de l'écriture ne l'a jamais quitté, même aux îles Samoa dans les dernières années de sa vie. Le roman qu'il écrivait, par exemple, au moment où il est mort, et c'est un roman inachevé, hein, Weir of Hermiston, Weir le juge pendeur, est un roman sur l'Écosse. Hein, donc il y a toujours chez lui cette mise à distance par l'écriture une forme de mise à distance.
C'était étonnant d'ailleurs qu'il ne puisse pas finalement se projeter réellement ailleurs qu'en Écosse pour ses romans et pour peut-être ce qui lui tenait le plus à cœur.
Mais je crois que l'Écosse, c'est le soubassement de son enfance et de toute sa vie. La dualité, cette fameuse dualité qu'on trouve chez Stevenson, on la trouve déjà dans la topographie de la ville d'Édimbourg, hein, avec la ville basse et la ville haute. La ville haute étant associée aux ruelles médiévales étroites, où il y avait de la misère, des prostituées, etc. Et la ville basse étant la ville géorgienne du XVIIIe siècle où vivaient ses parents. Et on a souvent dit que la topographie même de cette ville était double, hein, et prédisposait sans doute Stevenson au dédoublement.
Est-ce qu'il est double ou est-ce qu'il est dans l'entre-deux, comme on dit parfois, qu'on est entre deux chaises ? C'est-à-dire, est-ce que cette dualité, finalement, elle est au fond inconfortable, d'abord inconfortable?
Elle est très inconfortable et de ce point de vue-là, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alberto Manguel, au sens où, par exemple, il n'y a pas d'un côté, on va en reparler, d'un côté Jekyll et de l'autre Hyde, mais une figure composite. Hein, et c'est ce que d'ailleurs Nabokov a montré dans un essai sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Hein, c'était un cours qu'il faisait à l'université de Cornell, où il montre bien que, par des diagrammes, des dessins d'ailleurs, il montre bien que ce sont des ensembles qui se recoupent. Hein, et tout le problème de Jekyll, c'est pas tellement qu'il est deux, c'est plutôt qu'il est un, au sens où il ne peut pas se dissocier complètement de Mr. Hyde. Hein. Donc c'est vrai, vous avez raison, c'est plutôt c'est cet entre-deux qui est extrêmement délicat et que Stevenson perçoit de manière assez prophétique dans les années 1880.
En fait, Nabokov disait qu'ils étaient aussi trois, Jekyll, Hyde, et puis le résidu de Jekyll, lorsque Hyde prend la main, ça signifie qu'en fait la frontière entre les différents personnages de Stevenson, et vraisemblablement entre nos différentes personnalités à nous tous, cette frontière-là, elle est extrêmement poreuse.
C'est une frontière poreuse, c'est une... D'ailleurs, dans sa confession finale, Jekyll, qui écrit à la première personne, mais on va voir que c'est une première personne extrêmement menacée par l'émergence de Hyde, hein, qui voudrait bien arriver aussi à la première personne, hein, pouvoir parler à la première personne. Et Jekyll parle de territoires disputés entre les entités de la conscience, hein, et de manière que moi j'ai toujours perçu comme annonçant Freud, la fameuse topique freudienne, hein, que Freud exprime lui aussi en sous forme de territoire entre le moi et le ça, hein, et territoire en effet où se disputent les doubles.
Alors on va explorer davantage ce texte, Jekyll and Hyde. Je sais pas d'ailleurs s'il faut dire le cas étrange de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, l'étrange affaire, enfin bon, on va dire Jekyll and Hyde, si vous en êtes d'accord. Et ce roman a un double aussi, de la même manière que Stevenson a peut-être un autre romancier qui lui est son double. Vous-même, vous êtes un spécialiste d'Arthur Conan Doyle. Est-ce que pour vous, ces deux écrivains, l'un écrivant Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et l'autre, le Dr. Watson et son acolyte, sont dans une démarche un peu similaire? Est-ce qu'ils sont doubles l'un de l'autre?
Je dirais pas ça exactement. On peut prendre le problème, le fait d'ailleurs que vous-même, et vous n'êtes pas le seul, hésitez entre dire le cas étrange de ou bien...
Qu'est-ce que vous diriez?
Moi j'ai tendance à dire, à rappeler toujours, notamment à mes étudiants, que le titre complet c'est le cas étrange de. Et je prendrais le mot case anglais au sens de cas, c'est-à-dire au sens... plutôt de, comme on parle en psychanalyse, d'histoire de cas, hein, alors que certains traducteurs ont traduit par l'étrange affaire, insistant beaucoup plus, se faisant sur l'aspect policier du conte. Et vous avez raison au sens où il y a imbriqué dans une structure très complexe d'ailleurs, dans une structure narrative très complexe, il y a une mini-affaire policière, et c'est Borges qui, grand admirateur de Stevenson, Alberto Manguel étant lui-même grand admirateur de Borges, tout ça, ça fait une sorte de chaîne.
Un labyrinthe d'admiration.
Borges disait qu'on pourrait lire, à la limite, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, vous voyez que je laisse tomber le mot cas, on pourrait le lire comme une affaire policière. Et par cela, Borges ne voulait pas dire que c'était un roman policier, mais il disait on peut le lire comme si. C'était un roman policier. Et de fait, le mot case en anglais veut dire aussi, bien sûr, une affaire policière. Il y a une nouvelle de Sherlock Holmes, hein, puisqu'on en parle, qui s'appelle, dans les aventures de Sherlock Holmes, qui s'appelle A Case of Identity, c'est-à-dire une affaire d'identité. Ça pourrait, au fond, presque être un conte stevensonien.
The powers of Hyde seemed to have grown with the sickliness of Jekyll, and certainly the hate that now divided them was equal on each side. With Jekyll, it was a thing of vital instinct.
La puissance de Hyde semblait s'être nourrie de la condition maladive de Jekyll, et à coup sûr, la haine qui les opposait était aussi forte en l'un qu'en l'autre. Pour Jekyll, c'était une question d'instinct vital. Il n'y aurait plus rien désormais de la monstruosité de celui qui partageait avec lui certains phénomènes de la conscience et lui était associé jusqu'à la mort. Et par-delà ces liens qui les unissaient, qui suffisaient à expliquer la part la plus poignante de sa détresse, il considérait Hyde, en dépit de sa prodigieuse énergie vitale, comme une créature non seulement infernale, mais inorganique. C'était là ce qui le choquait le plus, que le limon du puits le plus profond puisse proférer des cris. Faire entendre sa voix, que la poussière sans forme pût gesticuler et pêcher, que ce qui était mort et n'avait pas de forme pût usurper les hautes fonctions du monde vivant.
Alors Jean-Pierre Nogrette, quelles sont les sources, les racines finalement de ce roman « Dr. Jekyll and Mr. Hyde » ?
Alors, les racines immédiates, c'est-à-dire contemporaines de son écriture, ce sont des causes, au fond, assez matérielles. Stevenson avait besoin d'argent, de manière assez chronique, et il se disait, son éditeur Longmans, hein, le pressait pour qu'il écrive vite un conte, un shilling shocker, comme disent les Anglais, hein, c'est-à-dire un petit roman à sensation pour un shilling. Donc il a été poussé, hein, de manière très immédiate, hein, vers l'écriture, mais comme toujours chez lui, C'est passé par le travail du rêve, c'est-à-dire que ce sont, vous avez rappelé tout à l'heure que Stevenson souffrait de manière chronique d'une forme de tuberculose, c'était pas exactement une tuberculose, mais enfin ça y ressemblait beaucoup, et il faisait des cauchemars dès son enfance, terrifiants, liés sans doute au calvinisme paternel, hein, qui le poussait à faire donc ses cauchemars, il se réveillait en sueur la nuit, il appelait sa nurse, etc. Mais ces cauchemars, comme il l'explique, notamment dans un essai qui s'appelle « Un chapitre sur les rêves », qui est un essai vraiment, je trouve, extraordinaire, où il explique peut-être pour la première fois en littérature la fonction du rêve en littérature, il explique très bien que ces cauchemars, en fait, étaient assez productifs, c'est-à-dire que il disait qu'il avait des petites créatures dans le grenier de son cerveau qui s'activait la nuit. Il les appelait les brownies, hein, donc des petits lutins qui travaillaient la nuit dans ce que aujourd'hui on appellerait l'inconscient, hein, et que Stevenson appelle donc plutôt le grenier du cerveau, et qui produisent, dit-il, des scénarios assez bruts, hein, dépourvus de toute conscience morale, dit-il, mais qu'il au fond retranscrirait le lendemain, en tant qu'écrivain, conscient, prenant la plume à la première personne, etc.
Et il s'en souvient, mais il a besoin de les formaliser quand même, auprès de sa femme, c'est ça en général.
C'est ça. Alors, il s'en souvient, mais il arrive à dire qu'au fond, lui-même a mené une sorte de double vie. Ses rêves, dit-il, prenaient, au fond, lui permettaient de vivre deux vies, je cite, une du jour, une de la nuit, l'une dont il avait tout lieu de croire qu'elle était la vraie, c'est-à-dire celle du jour, l'autre dont il n'avait aucun moyen de prouver qu'elle était fictive. Et du même coup, c'est par le biais du rêve, je crois, que s'installe chez Stevenson le dédoublement, au sens où, en effet, dans la genèse du conte, j'ai tendance à appeler ça plutôt un conte, hein, qu'un roman ou une nouvelle, il a fait un cauchemar qui a été productif et qui lui a permis d'écrire les premières scènes de Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Alors, il faut signaler qu'il y a eu d'abord un premier manuscrit et que ce manuscrit a été vertement critiqué par Madame Osborne, devenue Madame Stevenson, la femme, et que du coup, il l'a jeté au feu. A-t-il eu raison ?
Alors, et ce premier manuscrit a été en effet l'objet d'une querelle entre les époux Stevenson. Je pense qu'il a peut-être qu'il a eu tort de le montrer à son épouse. Il aurait peut-être mieux fait de ne pas lui montrer. Mais en tout cas, elle a jugé que, je cite, hein, que le manuscrit était passé à côté de l'allégorie.
Intéressante remarque tout de même.
Intéressante remarque et surtout qui plonge les depuis 1886 les critiques dans une certaine perplexité, puisque on peut se demander de quoi était fait ce fameux premier manuscrit jeté au feu. Le fait de jeter au feu, d'ailleurs, je pense, est quand même aussi assez révélateur dans une éducation puritaine, voire calviniste, hein, le feu, c'est quand même les flammes de l'enfer, hein, donc on jette le manuscrit dans le feu de l'enfer. Et ce premier manuscrit, sans doute, on estime qu'il contenait des détails sur notamment la sexualité ou les plaisirs, plutôt, on va dire ça comme ça, les plaisirs du Dr. Jekyll qui n'apparaissent pratiquement pas dans le texte final. Donc le texte qu'on a aujourd'hui, c'est une deuxième version que Stevenson a réécrite assez rapidement d'ailleurs, après avoir jeté la première au feu. Et cette deuxième version est une version en quelque sorte édulcorée, ou en tout cas, vous parliez de retenue tout à l'heure, mais c'est vrai que elle est intéressante dans la mesure où elle laisse le lecteur deviner les éventuels plaisir auquel s'adonnait Jekyll. Jekyll dit qu'ils sont, ils manquaient de dignité, mais c'est absolument tout ce qu'on sait sur les plaisirs en question.
Et pourtant, le plaisir, c'est exactement au cœur de ce récit, de ce conte, Dr. Jekyll and Mr. Hyde?
Alors le plaisir, ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait imaginer et ce que beaucoup de versions au cinéma ont explicité. C'est ce que regrettait aussi Borges dans un entretien. Hein. Il regrettait que Hollywood ait introduit immédiatement deux femmes, la femme respectable et puis la danseuse de cabaret ou de music hall, hein, pour correspondre aux deux facettes de Jekyll et Hyde. Alors que dans le texte, au fond, si plaisir il y a, c'est pas tellement dans l'identification d'une femme en particulier, ni fréquenter les prostituées, mais c'est dans véritablement dans cette forme d'accouchement, hein, auquel se livre Jekyll en donnant naissance à Hyde. Il décrit très clairement cette naissance, cette création, comme une procréation, hein, et qui aboutit à un Mr. Hyde qui se sent léger. Il voit des images qu'on pourrait d'ailleurs assimiler à une forme d'orgasme, finalement, hein, dans cette délivrance. Il vit ça vraiment comme une délivrance, d'accoucher de ce double, certes maléfique, mais en même temps plus jeune, qui lui permet de réaliser, en effet, certains fantasmes.
Ces pulsions. Parce que, effectivement, le gentil docteur Jekyll, dont on sait tout de même que, quand il était plus jeune, il avait une vie un petit peu dissolue, à laquelle il est obligé soit de renoncer, ou alors peut-être est-il obligé de la cacher, tout simplement. Et donc, il prend cette potion qu'il a lui-même concoctée, et cette potion, au fond, lui fait l'effet d'une drogue, vraiment d'une drogue, c'est-à-dire que ça devient addictif et ça le rend surpuissant. Ce n'est pas un autre réellement qui apparaît dans Hyde, ça n'est que le docteur Jekyll, mais débarrassé au fond de ses inhibitions.
C'est du moins ce qu'il voudrait faire. Hein, il voudrait, c'est ce qu'il explique, hein, dans le dernier chapitre, il voudrait en effet séparer, dit-il, clairement les frontières du bien et du mal, hein, et du même coup se débarrasser de sans doute ce qu'on pourrait appeler une forme de remords ou de mauvaise conscience. Voilà, sentiment de culpabilité, ce que Freud appellerait sans doute le surmoi. Mais ce qu'il explique aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, au fond, dit-il, il dit « mes plaisirs n'étaient pas plus condamnables que la plupart de ceux auxquels s'adonnaient mes contemporains ».
Enfin, quand même, il piétine une petite fille,
ses contemporains. En tant que Jekyll, il dit, je n'avais pas forcément une propension au vice plus condamnable que mes contemporains. Il dit, au contraire, c'est parce que j'avais un idéal de moi très élevé, sans doute supérieur à la moyenne, que j'ai créé Mr. Hyde pour débarrasser mon moi de cet aspect maléfique. Donc c'est une sorte d'excès, au fond, de respect de soi, qui l'a amené à créer ce double maléfique de façon à séparer nettement les deux.
Et ça fait penser un peu à des auteurs qui le suivront. On peut imaginer par exemple que Hubert Selby, quand il écrit Le Démon, est dans une démarche un petit peu similaire. On peut même retrouver quelque chose de Chuck Palahniuk dans Fight Club. Je ne sais pas si vous avez en tête ce livre de cet auteur américain d'aujourd'hui, mais il y a une tradition après Jekyll and Hyde qui reprend ce thème du double. Et c'est souvent d'ailleurs des anglo-saxons. Alors bon, c'est facile de dire que c'est le puritanisme qui crée ça, mais bon, on peut se poser la question quand même.
Oui, je connais mieux le contexte du 19e siècle, mais c'est quelque chose qui court, à mon avis, aussi. Il faut pas oublier non plus les origines de, puisque vous parliez des origines du conte, il y a aussi des origines presque épistémologiques, au sens où on est quand même à l'époque où Stevenson écrit cette nouvelle, on est en plein darwinisme. l'anthropomorphisme et cette idée que l'homme puisse descendre du singe et non pas de la création divine crée aussi, je pense, une sorte d'angoisse contemporaine qui pousse Stevenson à écrire ce conte, dans lequel d'ailleurs on remarque que Mr. Hyde est souvent comparé à un animal, hein, à un singe qui griffonne des blasphèmes sur la Bible du docteur Jekyll, etc. Et cette sorte de démon intérieur qui apparaît, il me semble, dans la littérature fantastique du 19e siècle en Angleterre. Alors c'est vrai qu'il y a une lignée anglo-américaine qu'on retrouve aussi bien évidemment chez Edgar Poe toutes les figures de double chez Edgar Poe. C'est le double qui est à la fois familier et inquiétant. Hein. Je pense que là, il y a une coupure qui s'opère en Angleterre, en tout cas dans les années 1880.
Les deux promeneurs cheminèrent un bout de temps sans plus rien dire. Puis, ce fut le notaire qui parla.
Enfield, c'est une bonne règle que la vôtre.
Oui, je crois.
Mais il y a un point, voyez-vous, sur lequel, malgré tout, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais vous demander quel est le nom de cet homme. Celui qui marchait sur la petite fille. Est-ce possible ?
Oh, je ne vois pas quel mal il y aurait à cela. C'est un monsieur qui se nomme Hyde.
Comment se présente-t-il, cet homme ? Comment est-il fait ?
Il n'est pas commode à décrire. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la mine qu'il a. Quelque chose de déplaisant. Oui, vraiment, quelque chose de franchement odieux. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait provoqué chez moi une pareille antipathie. Et pourtant, je n'arrive pas à savoir à quoi cela tient. Il doit être difforme, quelque part. C'est réellement l'impression qu'il vous fait. Mais en vérité, je suis incapable de dire où se tient cette difformité. C'est quelqu'un qui a un air extraordinairement bizarre, sans qu'on puisse citer chez lui, pourtant, un seul trait, un détail quelconque qui le distinguerait. Vraiment, non, je n'y arrive pas. Je ne peux pas vous le décrire. Et croyez-moi, ce n'est pas faute de mémoire. Je vous assure qu'en ce moment, je le vois comme s'il était là.
Marcel Schwob, Jean-Pierre Nogrette, qui a été sans doute le premier critique français de ce roman, Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Stevenson, a dit que l'art de Stevenson consistait à ne point dire. Et on l'entend bien dans cet extrait qu'on vient d'entendre, que la description de Hyde, elle est impossible. Donc sur le plan littéraire aussi, il y a là quelque chose d'intéressant à souligner.
Oui, ce qui est frappant, par exemple, c'est que là, on n'a pas dans le texte, dans la première partie du texte, on n'a pas de description objective de Mr. Hyde. On ne sait pas à quoi il ressemble. La plupart des personnages qu'il aborde dans la rue, et notamment dans la fameuse scène où il piétine une fillette au coin de la rue, sont incapables de dire vraiment à quoi il ressemble physiquement. C'est toujours par le biais d'impressions ou d'images. Hein, on dit qu'il ressemble à Satan, ou bien au juggernaut indien qui piétine comme ça des enfants, etc. Et on n'a pas en effet de description, disons, à la Balzac, à la troisième personne omnisciente, etc. Et par contre, et c'est là par exemple ce que Schwob remarquait dans son article, pour décrire la manière dont un matin Jekyll, se réveillant dans sa chambre, s'aperçoit qu'il s'est métamorphosé dans la nuit en Hyde, Stevenson se contente de décrire la main de Jekyll posé sur le drap, et cette main est une main velue, poilue, noueuse, etc. Et c'est la main de Hyde. Hein, et c'est ce qui avait beaucoup frappé Schwob, par exemple, dans le texte. Hein, Schwob parlait à juste titre de cette puissance des images qui s'imprime chez le lecteur, hein, et qui suffisent. Il suffit de décrire à la limite quelques poils sur la main pour immédiatement donner l'impression.
L'idée de la bête, en fait.
Voilà, c'est de la bête velue, hein, qui suffit à dire la métamorphose. La métamorphose n'est pas vraiment décrite, elle est toujours suggérée. C'est ce qui fait la force, je crois, du texte de Stevenson.
Donc le double dans ce conte, c'est évidemment Jekyll et Hyde, mais ce n'est pas que ça. Les autres personnages qui sont importants, on en parle moins souvent parce qu'ils sont moins forts et qu'ils sont moins allégoriques, sont aussi des doubles l'un de l'autre, les uns des autres.
On a remarqué que c'est un roman dans lequel on a beaucoup de messieurs qui déambulent par couple. Alors de là à dire que il y a des suggestions d'homosexualité.
Ça vous paraît crédible, cette théorie?
Tout à fait. Tout à fait, d'autant que les femmes, il y a très peu de femmes dans le texte. Je crois qu'il y en a 5 en tout, et ce sont en général des personnages très mineurs. Et visiblement, les enjeux se déroulent entre les hommes.
Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très étonnant, c'est que les deux cousins, donc le notaire Utterson et Enfield, oui. Au début du roman, on nous explique qu'ils se baladent ensemble, mais qu'ils ne se parlent pas, et que pour rien au monde, ils ne laisseraient passer ce moment de balade ensemble alors qu'ils ne se parlent pas pendant leur promenade, sauf quelques mots.
Oui, c'est l'image d'un couple qui déambule dans les rues, et on a pu dire, c'est Chesterton qui a dit que, en fait, même si le conte se déroule officiellement à Londres, en fait, c'est plutôt l'image d'Édimbourg qu'on a à travers l'histoire, puisque si c'est Londres, c'est un Londres extrêmement provincial, avec des églises qui sonnent, et ces images de couple qui déambulent le dimanche après-midi. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que le dédoublement est un dédoublement généralisé. C'est-à-dire que c'est pas simplement, en effet, Jekyll et Hyde. Évidemment, c'est au cœur de l'histoire. Mais, par exemple, entre le notaire Utterson et Mr. Hyde, il y a une relation assez trouble qui s'instaure, dans la mesure où, au début de l'histoire, le notaire, qui connaît les clauses du testament de Jekyll, où apparaît Mr. Hyde assez bizarrement, le notaire fait un jeu de mots assez funeste sur Hyde. Hein, en anglais, il dit « If he be Mr. Hyde, I shall be Mr. Seek ». Donc, s'il est Mr. Hyde, je serai Mr. Seek, c'est-à-dire Hide and Seek en anglais, c'est le jeu de cache-cache. Et donc, il va jouer à cache-cache, il va être celui qui va traquer Mr. Hyde, outrepassant d'ailleurs, au passage, les recommandations de Jekyll, qui dit au notaire, surtout n'allez pas plus loin, laissez-moi tranquille, laissez-moi mener mon affaire comme je l'entends.
Et il faudrait aussi parler tout simplement de ce patronyme Hyde, qui évidemment signifie caché en anglais, peut-être le ferons-nous dans la seconde partie de cette émission, Jean-Pierre Nogrette. On va reprendre notre conversation juste après cette traditionnelle séquence que nous avons appelée En compagnie des revues. En compagnie des revues aujourd'hui avec Olivier Mauny. Bonjour à vous Olivier.
Bonjour Mathieu.
Vous nous faites le plaisir de venir dans ce studio aujourd'hui. C'est la dernière de la saison.
Plaisir partagé,
ouais.
Tant mieux.
Mais tristesse tout de même parce que
les deux
on
se mélangent.
Ne se revoit pas avant septembre.
C'est vrai?
Ben oui.
Mais j'ai bien fait de venir aujourd'hui, alors ça va être long.
Alors vous êtes venu avec quelques conseils quand même pour l'été, pour que notre tristesse ne soit pas trop grande. Des conseils de lecture.
Des conseils de lecture, oui, on en donne beaucoup en ce moment. Mathieu, j'espère que les miens seront un peu inhabituels. Trop souvent, en effet, l'été est perçu comme une session, ou plutôt une saison de rattrapage destinée à permettre aux lecteurs de refaire leur retard de lecture, mais des 9 mois précédents, afin que lorsque s'avancera la rentrée littéraire d'automne, en grand équipage, la place soit enfin nette. Vous avouerai-je, Mathieu, que cette façon de faire vous a un petit côté consumériste, un côté tout doit disparaître, qui me chiffonne un peu. Et qui me paraît surtout contradictoire avec ce que peut-être l'été et les vacances, que doit être, oserais-je dire. C'est-à-dire moins à faire de retard que de prendre enfin son temps de paresse délicieuse. Alors lisons, bien sûr, car je ne connais pas de meilleure manière de perdre son temps tout en le regagnant, mais de grâce, lisons inactuel. Et considérons que ce temps de vacances peut aussi en être un de retour à soi, à son intimité, à son désir parfois enfoui de lecteur. Un temps pour honorer enfin des rendez-vous différés depuis très longtemps.
Alors justement, Olivier, quel rendez-vous comptez-vous honorer ?
Eh bien, par exemple, et bien que ce ne soit pas toujours d'une lecture facile, bien que le génie comique, ou plutôt ironique d'ailleurs, de l'auteur s'y teinte d'exigence, je vais passer une partie de mon été, si vous m'autorisez cette confession, avec Sol Bello, et plus particulièrement avec le volume Quarto de chez Gallimard, il y en a deux en tout, mais là, c'est d'un seul dont je parle, comprenant d'autres de ses romans les plus importants, La planète de Mr. Samler, et surtout, je crois, Herzog. Ceci, afin de mieux comprendre la place qu'il occupe dans le paysage littéraire américain, et plus précisément judéo-américain. Pourquoi, par exemple, ses deux meilleurs disciples, à mon sens, Philip Roth, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout Mordecai Richler, se considèrent comme tels. Mais peut-être, Mathieu, lirais-je Bello aussi comme un antidote à ma lecture précédente, qui, elle non plus, n'a rien d'un roman de plage. Pour avoir déjà largement entamé la lecture de ces plus de 2000 pages, je vous assure que la correspondance de Paul Morand et Jacques Chardonne, publiée un peu tardivement par Gallimard...
Qu'on peut pas vraiment emmener sur la plage, hein.
Bah c'est lourd, ça alourdit le sac de plage et le voisinage aussi. Et avec combien de précautions oratoires pour ce qui concerne la publication par Gallimard mérite mieux cette correspondance que sa réputation vaguement sulfureuse qui voudrait qu'elle soit seulement affaire de deux vieillards antisémites du Muppet Show ergotant sur leur époque. C'est avant tout... Et presque malgré ses auteurs, ce qui est assez fascinant, une tombée du soir. Non pas d'un monde qui disparaît, mais qui a déjà disparu, et dont la lumière est rien moins que spectrale. Et comme de plus on a affaire là à deux stylistes de la langue, surtout Morand d'ailleurs, dont jamais peut-être la phrase ne fut aussi rapide, jusqu'à l'étourdissement de ses propres dons, ce monument est aussi littéraire, vous l'aurez compris, que funéraire.
Et alors du côté du romanesque pur, si l'on peut dire, puisque c'est très adapté à l'été, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer, Olivier ?
Vous avez raison, en tout cas Mathieu, si l'été le roman n'est pas nécessairement de plage ou de gare, ça revient souvent au même, qu'au moins il soit romanesque, c'est le moment ou jamais. Dans le genre, on n'a que l'embarras du choix, évidemment. Je m'arrêterai personnellement sur deux œuvres admirables, essentielles, et qui peut-être n'ont pas en France reçu l'écho qu'elles méritent. Tout d'abord, une saga moscovite de Vassili Aksionov. D'une certaine façon, cette grande fresque, plus de 1000 pages là aussi, de l'URSS sous Staline, récit de la vie d'une famille d'intellectuels russes, qu'on peut trouver en deux tomes en folio, et le pendant romanesque, je dis bien romanesque, de La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch, notre prix Nobel, avec à l'intérieur, bien sûr, des réminiscences non seulement de Tchekhov, mais aussi et surtout de Tolstoï, qui est comme un phare, puisque cette saga est le guerre-épée du rêve sanglant soviétique. Traversée de l'été assurée, grâce au bon soin d'un magicien sûr de ses effets, et sachant que l'histoire, la grande, celle avec un grand H, ne dispense jamais de savoir en raconter. Autre possibilité, si vous m'autorisez cette dernière proposition, si l'on ne goûte guère au volume aussi fort qu'épais, profitez de ce que les éditions Fayard et la collection Les Cahiers Rouges chez Grasset et rééditez tous ces grands textes pour lire ou relire Christopher Isherwood. Chacun connaît ou a entendu parler, grâce au film Cabaret de Bob Fosse qui en est l'adaptation, son adieu à Berlin. On lui préférera pourtant La Violette du Prater et surtout Le Monde au Crépuscule et le sublime Un homme au singulier, adapté lui aussi au cinéma, on s'en souvient, par le couturier Tom Ford. Cet Anglais pour qui le vieux monde est mort, je parle d'Isherwood, réinventé en hit-boy californien, garçon sensible et romancier cruel, sait mieux que personne peindre la fin des choses. Ce sera aussi pour moi l'occasion de finir cette chronique et cette saison donc de la Compagnie des auteurs avec de vrais romans de plage, en l'occurrence celle choisie de Santa Monica, c'est pas la plus moche des plages, et de vrais désirs d'amour lointain. Bon été Mathieu.
Merci, mais vous c'est plutôt sur la dune du Pilat que vous comptez lire tout ça plutôt qu'à Santa Monica.
Ni l'un ni l'autre hélas.
Ah, ni l'un ni l'autre. Vous avez déjà, Jean-Pierre Nogrette, vos romans de l'été dans votre sac prêt à partir ?
Oui, oui, oui. J'ai un roman de Carol Phillips qui s'appelle Crossing the River, que je ne connaissais pas, mais que je suis en train de lire et qui est magnifique. Et
voilà un autre conseil pour nos auditeurs. Merci beaucoup, Olivier. Bon été. France Culture, la Compagnie des auteurs, nous sommes aujourd'hui avec Jean-Pierre Nogrette pour parler de Jekyll and Hyde et plus largement des relations troubles entre le bien et le mal chez Robert Louis Stevenson.
Je retournais en hâte à mon cabinet, préparer une fois de plus la mixture que je bus à nouveau. Je repassais par les affres et les tortures de la dissolution vertigineuse et je revins à moi. Sous les traits, de nouveau, avec le caractère et dans le corps de Henry Jekyll.
Jean-Pierre Nogrette, on a parlé du contexte de la pensée darwinienne, mais il y a peut-être autre chose qu'il faudrait évoquer quand on parle du contexte, c'est les travaux de Charcot qui se passent en France au même moment, les travaux qui inventent, pourrait-on dire, la notion d'hystérie. Est-ce que l'hystérie, c'est ce dont souffre le docteur Jekyll ?
On a dit que c'est Madame Stevenson, Fanny Osborne, donc, qui a déclaré de manière assez laconique que Stevenson avait été influencé par un article scientifique justement sur la psychiatrie moderne, hein, un article dans une revue française. Alors immédiatement, les critiques se sont emparés de cet indice pour essayer de retrouver un article en particulier, hein, qui aurait pu directement influencer Stevenson pour l'écriture de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On n'a pas trouvé l'article en question, mais il est vrai qu'il y a tout un faisceau quand même de revues contemporaines qui justement commencent dans le sillage de Charcot. En effet, il y a aussi Janet, Binet, etc., les grands psychologues français de ces années-là qui commencent à réfléchir sur la nature du moi et à remettre en question donc l'idée traditionnelle que le moi est un et indivisible au profit d'un émiettement de la personnalité.
Qu'on appellerait donc l'hystérie, c'est ça ?
Non, que c'est une sorte de... non, c'est simplement la remise en cause, et là aussi c'est lié quand même aussi au darwinisme. Il ne faut pas oublier que Freud était aussi un ardent lecteur de Darwin, hein, un texte comme Malaise dans la civilisation de Freud est très très darwinien. Mais c'est vrai que en même temps, on commence à s'intéresser à certaines manifestations comme l'hystérie le traitement par l'hypnose, etc., que Freud mettra en place au début de sa carrière. Faut pas oublier que l'étymologie d'hystérie, c'est la même que utérus. Et d'une certaine manière, tout à l'heure, lorsqu'on évoquait la naissance de Hyde, hein, cette naissance qui est vraiment décrite, sinon vécue par Dr. Jekyll, comme un véritable accouchement, alors dans la douleur, hein, mais il y a un véritable accouchement de Jekyll qui... ayant accouché lui-même, c'est ça aussi qui est une autre forme de dédoublement. Et il y a énormément de métaphores, d'ailleurs, utérines, on peut dire, dans le texte même de Jekyll, hein, qui se conçoit comme une caverne abritant un bandit. Hein. Il dit que lorsque Hyde a commis un méfait, Hyde se réfugie en lui, hein, par la porte de derrière qui mène au laboratoire, et il se réfugie en Jekyll, en quelque sorte, hein, comme un bandit se réfugiant dans une caverne. Et donc il y a énormément d'images. De même, Jekyll parle du sein de sa conscience. Il dit « womb of consciousness », hein. Au sein de sa conscience, il y a ces deux entités rivales. Et ça, c'est des métaphores maternelles, hein, d'accouchement.
Et hein. Si on continue dans la psychologie, voire la psychiatrie, il faudrait peut-être parler de schizophrénie, parce que c'est une schizophrénie que vit quand même au sein d'un même personnage ce dédoublement. C'est une schizophrénie.
Oui, sauf que le schizophrène, en principe, vit deux vies parallèles, sans avoir souvenir de l'autre vie qu'il mène. Hein. Alors que là, c'est pas le cas. Jekyll, et c'est ça son problème justement. Jekyll se souvient des méfaits commis par Hyde. Hein. Et il y a donc ce résidu dont vous parliez tout à l'heure. Hein, que Nabokov a montré, qui fait que la coupure n'est pas totale, hein, entre les deux entités. Et c'est bien là son problème, justement. Hein, cet échec, on peut dire que si échec il y a dans la tentative de Jekyll, c'est justement de couper définitivement ces deux entités et de mener totale double vie, hein, alors qu'en réalité, il y a toujours ce fameux résidu qui l'empêche d'aller jusqu'au bout de son projet.
Il aime bien, si vous voulez, montrer de façon ambiguë les rapports entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'en général, les gens qui se conduisent bien sont attirés par ceux qui se conduisent mal. C'est le cas de cet enfant qui finalement laisse presque volontairement partir le pirate avec une partie du trésor. Il fait pas grand-chose pour l'empêcher, on peut dire. Et de même, dans Enlevé, qui est le premier volet des aventures de David Balfour, ou toujours dans la même période temporelle, 1725-1800, il y a encore un adolescent qui est le héros. Cet adolescent, lui aussi, est attiré par des personnages qui sont, sinon des criminels, du moins des hors-la-loi. Le héros est attiré par un certain Alambrecht qui a quand même commis plusieurs meurtres pour des raisons politiques, peut-être, mais enfin quand même des meurtres. Et qui est un rebelle à son roi, donc qui a priori est du côté du mal. Dans Le Maître de Ballantré aussi...
C'est votre préféré, j'ai l'impression, non, d'après vos préfaces?
Ah, Le Maître de Ballantré, oui, c'est mon livre préféré, oui. C'est, je crois, c'est le grand roman méconnu, ça me paraît être le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de Stevenson, vraiment. Alors dans ce grand roman qui, en principe, est volontairement terne, ça se passe dans un château écossais, c'est un combat feutré, c'est vraiment la haine entre un frère qui est resté auprès de sa famille, et qui représente le bien, et un autre qui est parti se joindre à l'usurpateur, roi sans couronne, qui vient Saint-Germain-en-Laye, c'est-à-dire Jacques III, qui est soutenu par Louis XIV. Et c'est là aussi un combat entre le mal et le bien, comme dans les précédents titres que nous avons évoqués, mais qui a ceci de particulier, c'est qu'il se commet par la pensée et à travers la distance, car... les deux frères qui se haïssent, dont l'un représente le bien et l'autre le mal.
Le bien étant le plus terne des deux, et le mal le plus brillant, séduisant.
Le plus séduisant. Il est tellement séduisant qu'il séduit à distance et que son emprise s'exerce sur ce château de Ballantré, et qu'il en arrive à séduire par correspondance, par télépathie, la femme de son frère. Tout le monde, en fait. Et qu'il en arrive à ceci, c'est qu'il amène son frère, qui est pourtant un individu puritain, prude, respectueux de la loi, des convenances, de la morale, il l'amène à se conduire comme un criminel.
Francis Lacassin, au micro de Gilles Lapouge. Donc Jean-Pierre Nogrette, la question du bien et du mal, elle est générale. On la retrouve partout, dans L'île au trésor, c'est assez inattendu, dans Jekyll and Hyde, on en a parlé, et dans Le Maître de Ballantré. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette question-là et de la dualité dans Le Maître de Ballantré, qui est basée justement sur ce choc entre deux frères différents, opposés?
Alors, vous avez cité ces trois romans, et à chaque fois, l'un des, c'est ce que d'ailleurs, ce à quoi faisait allusion Francis Lacassin, à chaque fois, évidemment, c'est le camp du mal qui est le plus séduisant.
Comme dans la vie.
Comme dans la vie.
Pourrait nous dire Stevenson.
J'étais un colloque récemment sur le bien, hein, et en fait, tout le monde n'a pas cessé de dire du mal, du bien. En littérature, hein. Le bien n'est pas séduisant.
Oui, c'est ennuyeux, le bien en littérature. Est-ce qu'il y a un bon roman du bien en littérature?
C'est complètement ennuyeux. C'est Gide qui disait on ne fait pas de la bonne littérature avec des bons sentiments. Et Gide était un grand admirateur de Stevenson, d'ailleurs. Il avait emporté Le Maître de Ballantré lors de son voyage au Congo. Hein, il l'a relu sur son bateau qui l'emmenait au fin fond du Congo. Hein, un peu sur les traces de Joseph Conrad. Mais pour répondre à votre question, c'est vrai que dans L'île au trésor, même chose, dans L'île au trésor, c'est évidemment le camp des pirates et de l'unijambiste Long John Silver qui est le plus séduisant, sans doute parce qu'il apporte le plus de fantasmes.
Jim peut faire rêver quand même aussi, l'aventurier, le jeune aventurier, c'est une vie qui peut plaire tout de même.
Bien sûr, mais c'est Jim lui-même qui est sans cesse tiraillé entre les deux camps, d'ailleurs, entre le camp des gentlemen domaine auquel il appartient plutôt, puisqu'il s'embarque à bord du bateau avec les gentlemen, mais les autres gentlemen qui sont les gentlemen of fortune, hein, c'est-à-dire les pirates, sont évidemment beaucoup plus séduisants, plus haut en couleur. Le maître de Ballantré dans le roman est décrit, alors que lui-même fait l'objet de critiques sévères, puisque c'est quelqu'un de très dissipé, de tentateur, et il exerce un chantage sur sa famille, etc. Et pourtant, le narrateur principal, l'intendant Macalla, à un moment donné, après l'avoir vertement critiqué pendant de nombreux chapitres, à un moment, il écrit, il avait toute la splendeur de Satan dans le paradis perdu de Milton. Et tout le monde sait que dans le paradis perdu de Milton, c'est évidemment Satan qui est le personnage le plus séduisant.
Donc il les met à la fin sur un pied d'égalité, au fond, les deux frères. Est-ce que vous croyez...
Mais ça, c'est plus qu'un pied d'égalité, parce que si on va si on regarde l'épitaphe sur laquelle se clôt le roman, ce qui est absolument extraordinaire dans cette épitaphe, c'est que on voit que en réalité, à la fin du roman, c'est le maître de Ballantré qui a dépassé pour Macalla, l'intendant, qui a dépassé son frère, et c'est l'épitaphe là, est une sorte de résolution un peu des contraires, au sens où c'est là qu'apparaît pour la première fois dans le texte l'admiration secrète que portait l'intendant pour ce personnage dont pourtant il n'a cessé de critiquer les excès et les défauts.
Donc, et est-ce que vous pensez, alors c'est une question très subjective, mais que Stevenson, quand il commence Le Maître de Ballantré, sait déjà qu'à la fin, le méchant, allez, parlons comme ça, le mauvais maître de Ballantré, finira réhabilité de manière trouble. Est-ce que c'est ça, selon vous, le projet du livre, ou est-ce que, au fur et à mesure qu'il écrivait ce très gros livre, quand même, finalement, il a découvert une autre facette, un double, dans son personnage du maître de Ballantré?
Je pense, c'est très difficile de répondre à cette question. La correspondance de Stevenson montre qu'il est, je crois que vous avez raison, au sens où il avait conscience des pouvoirs romanesques que pouvait lui donner son personnage du maître. Et c'est vrai qu'entre les deux frères, comme on dirait aujourd'hui, il n'y a pas photo. Il y en a un qui est casanier, qui est craintif, plutôt timoré, et puis l'autre qui est flamboyant, qui a cette aura de mystère et de romanesque. Stevenson dit romance au sens de romanesque, qui est beaucoup plus séduisant aussi pour un romancier qui veut écrire un conte qui, dit-il, s'étend sur des continents très différents, puisqu'on part de l'Écosse pour arriver au désert américain, en passant par l'Inde. Il y a un chapitre consacré à l'Inde, qui est d'ailleurs tout à fait étonnant. Et donc, c'est sûr que pour le romancier aussi, le mal est plus séduisant et a plus de possibilités romanesques que le bien.
Et ce sont les deux faces de Stevenson. Quelle est la part d'ombre de Stevenson? Est-ce que lui-même, et c'est un petit peu ce que disait Alberto Manguel au début de cette émission, lui-même aurait peut-être souhaité être davantage le maître de Ballantré et avait des racines familiales, religieuses qui l'en empêchaient. Quelle est la part d'ombre pour vous de Stevenson?
Je pense que Stevenson était quelqu'un... Il y a un détail, mais qui est assez révélateur sur la tombe de Stevenson, hein, qui se trouve au sommet d'une montagne aux îles Samoa. Je n'ai pas vu cette tombe, malheureusement, mais on en sait, on a des photographies qui montrent qu'elle porte les vers d'un requiem que Stevenson avait écrit alors qu'il, en 1885, à Hyères, sur la Côte d'Azur, où il pensait qu'il allait mourir, et donc il a écrit son requiem. Et dans ces quelques vers de ce requiem, il dit que ces deux moitiés contradictoires sont enfin réunies. C'est-à-dire que d'un côté, le chasseur des collines, donc ça c'est le versant écossais, hein, disons, et le marin. Le chasseur des collines et le marin sont enfin réunis dans ce qu'il appelle en anglais « home », c'est-à-dire la maison ou le chez-soi. Et le chez-soi, au fond, c'est la tombe. C'est la tombe qui est le lieu de réconciliation de ces deux moitiés que Stevenson, je pense, a vécu toute sa vie, pour répondre à votre question, comme antagoniste, foncièrement antagoniste. Et du même coup, on comprend mieux aussi la fin du Maître de Ballantré, puisque les deux frères rivaux, qui ont été, on peut dire, ont été rivaux toute leur vie, sont enfin réunis dans ce lieu désolé et solitaire qui est le désert américain, avec les peaux rouges, hein, qui rôdent autour de des aventuriers. Et au fond, l'intendant leur dédie une dernière fois ce monument, hein, pour célébrer, au fond, leur union ultime, hein, et cette union, malheureusement, ne peut se réaliser que par la tombe.
Merci Jean-Pierre Nogrette.
Holy, holy, holy.
15h54 sur France Culture, c'est le moment de la dernière séquence de cette émission. Et en cette dernière semaine, Jacques Bonnaffé a choisi de lire des poèmes de deux auteurs proches de Christophe Tarkos, dont il nous avait déjà lu des textes fin mai. Ces deux poètes, ce sont Charles Penquin et Nathalie Quintane.
Bonjour, je n'ai rien à percer, je ne perce rien, je ne perce pas, car il n'y a rien à percer. Aurait-il à percer? Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce qui perce? Que perce-t-il? Il n'y a rien à percer. Ça perce, mais qu'est-ce qu'il y a à percer? Je ne demande pas mieux de percer, mais je ne vois pas pourquoi je percerai. En fait, je ne percerai pas, car il n'y a vraiment pas de quoi percer. Il n'y a de toute façon pas à percer. Dites-moi où est-ce qu'on perce? Est-ce qu'il y a à percer? Est-ce qu'il y a vraiment à percer? Est-ce qu'au fond du fond ça perce? Au fond du fond ça perce pas, car rien n'est à percer. Pour le moment donc, je ne perce pas, car je ne vois pas pourquoi je percerai alors que je n'ai pas à percer. Charles Penquin est né en 1965 à Cambrai. En novembre 2012, il est le premier récipiendaire du prix de Zorba, qui récompense un livre excessif, hypnotique et excitant, pareil à Une nuit sans dormir. C'est son recueil, Pamphlet contre la mort, paru chez POL. On y trouve les accoudoirs. Je descends la petite ruelle de chez moi, c'est une voyette. En fait, elle sépare les jardins par un haut mur, une voyette qui pue, toujours la pisse, à croire même que la nuit, on se déplace ici pour maintenir une odeur toujours aussi irrespirable pour le passant lambda. Dans ma tête, j'ai une musique d'Ennio Morricone qui me permet de tenir largement le coup et de ne pas passer ainsi pour le passant lambda. Je descends toujours cette voyette avec un petit air dans la tête, car je me sens enfin débarrassé de la vie familiale. Je file voir mes copains et notamment Philippe au café Bédu pour boire des Ricards. Ce soir, je pense à cette fille à qui je dédicace tout ce que j'ai dans ma tête en ce moment, c'est-à-dire une phrase qui se termine par le mot boulet, par exemple, à moins que ça ne finisse par la rosée, ce qui serait déjà plus à mon avantage. Ce sont des mots qui traduisent l'impression que j'aurai tout à l'heure en remontant en pleine nuit cette voyette, suant la pisse, et je penserai alors à ma phrase dans la tête que je dédicacerai à cette fille qui est dans ma tête aussi, en remettant le disque de mon héros, une histoire de pédalo, de lutte, d'applaudimètres, de bas qui file avec des paires de lunettes et de fin de printemps ou d'été, fin des amours, en fait la fin toujours recommencée de l'amour adolescente. On prend comme ça des bouts, des extraits, on lui fait mal, ses poèmes sont beaucoup plus longs et on saute sur page 40 de la rigolade. Nous étions des âmes simples, des petites âmes de pauvres, des petites gens, des gens de petite fortune, des âmes pas gramin compliquées, de la petite mitraille, de la misérable bière, du populo très tranquille, pas méchant pour un sou, du petit peuple sans souci. Nous étions des petites personnes pas compliquées du tout, pas bien finaux non plus, car nous n'étions pas très futés, des futilités, des babioles, des bidules pour l'histoire. Nous étions la petite histoire, le petit remuement, la vaguelette qui se meurt dans l'histoire. Nous étions de la petite bière dans la vie historique, le petit mouvement de société, la petite pente trompe mal dégrossit la société, sans classe, le mouvement pas cadré, des objets mal foutus et qui dérangent, de la bagatelle, de petits bibelots frivoles et mythes guingois, de la bricole pas passionnante, des sujets pas très affriolants, de petites badernes dans la civilisation. On parlait peu de nous, on parlait de nous, mais pour rien dire de captivant, pour dire des sottises, car on ne pouvait rien sortir de nous. Nous étions la petite sottise du temps, le petit cœur simple, pas compliqué, le petit cœur du temps historique et qui bat simplement, sans conséquence, sans une once de méchanceté, mais qui n'est jamais vraiment ravagé, qui bat sa petite mesure dans l'ombre des grands moments, des grandes décisions, des grands ravages, des grands coups de feu de l'histoire. Nous étions la petite graine qui saute sur un gros tambour, rien d'autre que de minuscules bâtons de riz qui dansent sur la grande peau du monde. Nous n'étions pas de cette peau-là, nous n'avions que notre peau.
Ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Jacques Bonafé lisait des textes de Charles Penquin, extrait de Pamphlet contre la mort en point d'orgue à une compagnie des auteurs que nous consacrons toute cette semaine jusqu'à jeudi à la vie et à l'œuvre du grand écrivain écossais Robert Louis Stevenson. Dans ce studio aujourd'hui, il y avait Jean-Pierre Nogrette que je remercie chaleureusement, à signaler sa traduction de Dr. Jekyll and Mr. Hyde en livre de poche bilingue, signalant également son recueil d'articles sur Sherlock Holmes cette fois qui a paru au Visage Vert. Et puis vous pouvez réécouter évidemment cette émission en podcast et nous retrouver sur les réseaux sociaux en attendant demain et un numéro consacré à l'île au trésor et au voyage chez Stevenson. Cette émission était réalisée par Marie Chartron. À la console, il y avait Bruno Gagnin-Fontanille. Merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Sophie de Lombarès, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu.